c'est l'heure du journal des idées, après le journal de l'actualité. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
On pensait avoir tout dit sur les gilets jaunes, Jacques, mais une étude approfondie doit paraître cet automne et Le Monde en dévoile les grandes lignes.
Eh oui, c'est une étude réalisée par 70 sociologues, politistes et géographes à l'initiative du centre Émile Durkheim de Bordeaux, une ville où par ailleurs les gilets jaunes ont été particulièrement actifs. Sur l'ensemble du territoire, dans les manifestations comme sur les ronds-points, plus de 1300 d'entre eux ont répondu à une enquête par questionnaire complétée par plusieurs dizaines d'entretiens approfondis menés en face à face. Magali Della Souda, historienne et politiste, en évoque les grandes tendance, à commencer par le positionnement des gilets jaunes à l'égard de l'environnement. Ce mouvement, qui est né d'une protestation contre la hausse des taxes sur le carburant, a souvent été qualifié d'anti-écologiste, rappelle-t-elle. L'enquête montre pourtant que les gilets jaunes, qui estiment que l'écologie n'est pas une priorité, sont très minoritaires. Nombreux sont ceux qui demandent plus de justice dans les politiques environnementales. C'est le kérosène et les yachts qu'il faut taxer, estime près d'une personne sur cinq. Et l'enquête montre aussi l'émergence d'une praxis écolo-populaire. Faire son potager, acheter sa viande et chez l'éleveur d'à côté, consommer autrement. Plusieurs marchés citoyens réunissant producteurs locaux et habitants et qui court-circuitent la grande distribution ont vu le jour depuis le début du mouvement. L'action collective a également transformé leur rapport à la politique, ce dont témoigne la revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui exprime davantage le sentiment d'un déficit de démocratie qu'une défiance à l'égard de la démocratie représentative, dont c'est plutôt le fonctionnement qui est mis en cause. On sort donc de la dichotomie entre démocratie directe et démocratie représentative, commente la politiste, mais aussi de la dichotomie opposant la démocratie substantive. On agit au nom d'un groupe sans en faire partie, comme Jean Jaurès quand il soutient les mineurs de Carmo, à la démocratie descriptive. Seul un gilet jaune peut représenter les gilets jaunes. Quant à l'essoufflement du mouvement, Magali Della Souda préfère parler de veille à la faveur d'un contexte favorable, les actions peuvent reprendre et les réseaux constitués se réactiver. Que reste-t-il des gilets jaunes? Titre aujourd'hui l'hebdomadaire Le 1. Brice Teinturier énumère les éléments déclencheurs du mouvement et constate qu'en cette rentrée 2019, ils sont loin d'avoir disparu. Au mieux, ils se sont atténués, au pire, ils couffent encore. Mais le spécialiste des sondages et des évolutions de l'opinion s'attarde sur ses conséquences politiques. Une inflexion majeure de la politique économique du gouvernement, une évolution notable de la communication présidentielle, une prise de conscience du caractère incontournable de la crise de la représentation qui traverse depuis longtemps notre pays. Il fallait réformer vite et fort, dit-il, pour produire des résultats concrets et restaurer ainsi une relation dégradée. Depuis les gilets jaunes, l'exécutif a compris que cela ne suffisait pas et qu'il fallait consulter en permanence les Français. Pierre Veltz a consacré de nombreux travaux de recherche aux dynamiques territoriales à des échelons allant du local au global. Il évoque les causes immédiates du mouvement. Notre structure territoriale, avec ce fait que la distance entre le domicile et le travail s'est beaucoup accrue, ainsi que l'existence de grandes nappes suburbaines qui entourent les grandes villes, où la population et les services sont extrêmement atomisés. Chaque commune a voulu construire ses petits lotissements, mal desservis et en deçà de la taille critique pour les services. Le sociologue relève aussi des causes plus lointaines et profondes, la montée d'une forme globale de ressentiment social, malgré un processus d'homogénéisation de la société et même du territoire français. Mais c'est là précisément que le bât blesse, selon le fameux paradoxe de Tocqueville. Plus les inégalités baissent, plus celles qui subsistent sont intolérables. Nous ne sommes plus dans le monde décrit par ce passage prodigieux de Proust dans La Recherche, écrit-il, où il observe les clients de l'hôtel de Balbec en train de dîner pendant que les petites gens et les pêcheurs les regardaient de l'extérieur à travers la vitre. C'était une société de classe où il pouvait y avoir de la colère sociale, mais pas de ressentiment, car la distance était trop grande entre ces deux mondes. Aujourd'hui, la société s'est homogénéisée sans tenir toutes les promesses de cette homogénéisation. Il ne suffit pas d'avoir fait des études supérieures pour trouver un bon emploi, et l'on peut déplorer la disparition d'un récit commun, fut-il conflictuelle sur le partage des fruits de la croissance, par exemple.